Et bonjour à tous, et bonjour à toutes, en route sur les chemins de la philosophie à la recherche du Dieu sans Dieu, du peintre sans maître, l'athée militant qui veut absolument peindre un ciel étoilé. Celui qui peint les champs de blé, le ciel orageux du printemps et le sabot des paysans est aussi l'auteur de la résurrection de Saint-Lazare. Celui qui, parce qu'il ne croit pas en Dieu, cherche dans la peinture quelque chose de plus grand que lui. Vincent Van Gogh, qui écrit le 3 septembre 1888.
Je veux bien, dans la vie et dans la peinture aussi, me passer de bon Dieu. Mais je ne puis pas, moi, souffrant, me passer de quelque chose de plus grand que moi, qui est ma vie, la puissance de créer. Et si, frustré dans cette puissance physiquement, on cherche à créer des pensées au lieu d'enfants, on est par là bien dans l'humanité pourtant.
Bonjour Yann Blanc.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci. Bonjour.
Prends la parole sur Wagner, ça fait toujours un peu bizarre, non?
Oui, ça fait un peu bizarre. Wagner a quand même joué un rôle important dans la pensée de Van Gogh. Il le cite à de nombreuses reprises, même si probablement n'a-t-il jamais entendu une note de Wagner, mais il symbolise à ses yeux l'art moderne, la modernité de la musique à laquelle il veut évidemment participer par sa peinture.
À vos côtés se trouve Georges Clès, qui pour cette dernière émission de La Grille nous fait l'honneur d'être en direct avec nous. Bonjour mon cher Georges.
Bonjour, bonjour.
On a hâte de vous entendre continuer à lire Van Gogh, parce que alors pour le coup Van Gogh, Yann Blanc, on parlait de Vermeer à ce même micro il n'y a pas si longtemps. De Van Gogh, nous avons énormément d'écrits, de correspondances notamment, ce qui est un bon moyen d'essayer de parler de son œuvre à partir de ce que lui-même en dit.
Oui, alors on a 902 lettres. On a 900 tableaux, on a 1100 dessins, une dizaine d'estampes. Donc évidemment, ça fait un peu plus que les 36 à 38 tableaux qu'on a conservés de Vermeer. Et il fallait évidemment trouver une sorte d'angle, de perspective. Et l'angle, la perspective que j'ai choisie, c'est effectivement de partir de la documentation, de relire l'ensemble de la correspondance et d'essayer d'y déceler des traces de thèmes structurant son œuvre et sa vie.
Et le résultat, c'est un ouvrage somptueux, Yann Blanc, qui s'appelle Van Gogh, ni Dieu, ni Maître, publié aux éditions Citadel et Masneau. On lit ce livre comme on se promène dans un musée, tellement la qualité de la reproduction des tableaux est exceptionnelle. Et vos commentaires, c'est plus que des commentaires, les textes dont vous êtes l'auteur, Yann Blanc, et qui permettent de penser avec Van Gogh et avec sa peinture, et de montrer en quoi la peinture elle-même pose des questions, comme un texte philosophique, comme une œuvre d'art, comme toutes les œuvres d'art. Et que ces questions, c'est ça qui est peut-être assez étonnant, et vous le dites, c'est en filigrane dans votre ouvrage, sont finalement d'inspiration assez nietzschéenne.
Oui. Je dois dire que je ne suis pas le premier à avoir assimilé ou comparé l'œuvre de Van Gogh à celle de Nietzsche pour des raisons à la fois biographiques, mais également pour des raisons chronologiques. Nathalie Heinick, dans sa Gloire de Van Gogh, avait insisté déjà sur cette proximité. Dorian Astor, dans son édition commentée d'un recueil de lettres de Van Gogh, avait déjà proposé une lecture clairement nietzschéenne, un certain nombre de tableaux de Van Gogh. Et moi, au fond, j'avais voulu tirer ce fil en essayant de le tirer le plus complètement possible. Il s'agissait évidemment pas de plaquer les concepts nietzschéens sur l'œuvre de Van Gogh, ça n'a pas eu de sens, mais plutôt d'essayer d'utiliser certains des concepts nietzschéens pour mieux comprendre, mieux éclairer des aspects de l'œuvre et de la vie de Van Gogh. Et notamment, évidemment, ce rapport à l'autorité, qu'il s'agisse de l'autorité de Dieu ou de l'autorité des maîtres. Et je dois vous avouer qu'au départ, je partais quand même de l'idée assez traditionnelle, assez classique dans la bibliographie, que Van Gogh était en quelque sorte une sorte de fou de Dieu. Hein. Fils et petit-fils de pasteur, membre d'une famille qui appartient à l'église réformée de Hollande depuis le XVIIe siècle, si ce n'est pas plus. Personne qui, au milieu de sa vie, va tenter même de devenir pasteur, hein, méthodiste en Angleterre, des études de théologie à Amsterdam, un échec. Il va travailler également à Bruxelles, dans un collège d'évangélistes. Il va même devenir pasteur ouvrier dans le Borinage, près de Mons. Tout ça, ça serait une sorte de somme d'échecs. Mais on trouve dans sa correspondance de très nombreuses références à Dieu. Il est un grand lecteur de la Bible qui connaît quasiment par cœur. Donc de ce point de vue, j'oserais presque vous contredire. Et me contredire,
ah bah,
chance.
Je vous en prie, vous êtes là pour ça.
Van Gogh, on ne sait pas, enfin, on ne peut pas affirmer qu'il ne croit pas en Dieu. Mais en tout cas, on peut affirmer quelque chose que l'on découvre dans la correspondance, c'est qu'il doute de Dieu, qu'il doute de sa position et de sa croyance, qu'il critique fortement toute une série d'institutions religieuses, à commencer par l'Église, mais aussi par la croyance elle-même, et affirme à plusieurs reprises une position qu'il définit comme athée. Et c'est autour de cette contradiction, hein, de cette problématique entre une inscription forte de sa vie et de son œuvre dans un champ sacré et des affirmations fortement imprégnées de socialisme, de sensibilité aux ouvriers et au monde ouvrier, de lecture de Zola, de sensibilité aux idées anarchistes dans le cercle de Pissarro que j'essaie de travailler et donc avec des résultats qui me paraissent confirmer l'idée qu'au fur et à mesure des années et surtout à partir des deux dernières années de sa vie, il affirme dans son œuvre, il propose dans son œuvre une sorte d'appareil de critique systématique de l'idée de Dieu et d'une sorte de servile imitation des maîtres.
Rappelons quand même que Van Gogh naît en 1853, qu'il meurt en 1890, et il ne se consacre véritablement à la peinture qu'en 1880, à peu près, c'est-à-dire très tardivement dans sa vie.
Voilà. Évidemment, il dessine très tôt. Ses premiers dessins datent des années 1872-1873, donc il est tout jeune. Il s'intéresse déjà au dessin très tôt. Il y a des marchands d'art dans sa famille, donc il y a déjà ce milieu qui est présent. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'il affirme son credo de peintre, c'est août 1880, au moment même où il décide de rompre en grande partie avec sa famille, et de rompre avec ses idéaux, ce qu'il appellera plus tard ses aberrations religieuses. Donc au fond, on constate que ça n'est que durant les 10 dernières années de sa vie qu'il se consacre véritablement à une profession qu'il assume pleinement. Les deux premières professions qu'il tentera d'assumer, c'est la profession de marchand d'art chez Goupil et compagnie, profession que sa famille cultivait, disons, que sa famille entretenait, et dans un second temps, donc, la vocation religieuse. Et au fond, c'est en 1880 qu'il affirme sa volonté de devenir peintre, cette affirmation coïncidant, au fond, avec le début d'un questionnement critique et systématique de toutes les institutions religieuses dont il a été pourtant, d'une certaine façon, le dépositaire et dit-il aussi, la victime.
Ce paradoxe entre une demande de croyance, peut-être une conviction de l'existence du sacré, sans pour autant que cela entraîne la croyance en un dieu, c'est effectivement exactement ce que l'on trouve chez Nietzsche. Je vous propose qu'on entende un texte, tout de suite un des textes les plus connus de Nietzsche, un des textes préférés aussi de Georges Claes qui est là à mes côtés, qui va l'interpréter pour vous maintenant. Ce texte sublime va nous permettre d'éclairer en retour la peinture de Vincent Van Gogh. Écoutez.
Le démon. N'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu ! Je cherche Dieu !» Étant donné qu'il y avait là justement beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. « S'est-il donc perdu ? » disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ? » disait l'autre. Ou bien s'est-il caché? A-t-il eu peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. Où est passé Dieu? Lança-t-il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses assassins. Mais comment avons-nous fait cela? Comment pûmes-nous boire de la mer jusqu'à la dernière goutte qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout le raison? Que fîmes-nous en détachant la terre de son soleil? Où l'emporte sa course désormais? Où nous emporte notre course? Loin de tous les soleils? Ne nous abîmons-nous pas dans une course permanente? Et ce, en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés? Est-il encore en haut? et un bas, n'errons-nous pas comme à travers un néant infini? L'espace vide se répand-il par son souffle sur nous? Ne s'est-il pas mis à faire plus de bruit? La nuit ne tombe pas, ne tombe-t-elle pas continuellement et toujours plus de nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes à midi? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et nous l'avons tué.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la symphonie inquiétante d'Henri Dutilleux, la nuit étoilée, qui évoque les toiles de Van Gogh, qui portent quasiment le même nom. Juste après avoir entendu Georges Claes qui interprétait ce texte de Nietzsche sublime, qui d'ailleurs, Yann Blanc, quand on lit la correspondance de Van Gogh, on trouve des termes qui évoquent bien souvent le vocabulaire nietzschéen. La proximité va jusque-là, pas simplement le constat de fond.
Alors c'est une pure coïncidence dans la mesure où il était impossible à Van Gogh de connaître des textes de Nietzsche. Sa réception française est pratiquement contemporaine, mais on n'a aucune trace explicite ou implicite de la présence des textes de Nietzsche dans sa correspondance. Mais en revanche, il y a effectivement une proximité intellectuelle. Autour de cette idée de la mort de Dieu, ce qui est important et intéressant de se poser comme question, c'est de savoir au fond comment penser cette mort de Dieu. Les Nietzschéens s'arrachent les cheveux d'ailleurs autour de cette question-là. La question de l'athéisme, la question de l'athée peut se penser de différentes manières. On peut considérer que l'athée, c'est celui qui considère que Dieu n'existe pas. Donc le « a », le préfixe privatif, renverrait à la non-existence de Dieu. Mais une autre façon d'être athée, c'est de finalement laisser de côté ce problème et de considérer qu'il faut tuer Dieu en soi. C'est-à-dire d'extirper Dieu de son existence, de critiquer les institutions sur lesquelles cette idée est fondée et de le présenter, comme le fait Nietzsche, comme une maladie. Dieu est mort et demeure mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est la mort, que Dieu est le contraire de la vie. Et une grande partie du travail de Van Gogh, notamment lorsqu'il commencera à souffrir de crises mentales qui vont le plonger dans une série de pauses durant lesquelles il ne travaille plus, ça sera justement, et c'est très frappant, de faire de Dieu la cause de sa folie. Il explique grosso modo, et d'ailleurs une interprétation qui sera reprise en partie par Antonin Artaud, il explique que c'est au fond à cause de Dieu qu'il est fou. Il y a un texte de 89 où il dit, il critique les, je cite, ces bonnes femmes qui croient à la Vierge de Lourdes et fabriquent des choses comme ça, et de se dire qu'on est prisonnier dans une administration comme ça qui cultive très volontiers ces aberrations religieuses maladives alors qu'il s'agirait de les guérir. Il faut se guérir de Dieu, dit Van Gogh, et il le fait. Il tente de le faire surtout par la pratique de la peinture. La peinture lui permet, dit-il, de s'éloigner, de se distancier de l'idée de Dieu, donc d'une certaine manière de le tuer.
Sans pour autant renoncer à toute forme de transcendance. En tout cas, il y a cette volonté chez lui de trouver autre chose que ce qu'il y a devant ses yeux, devant son regard. Il cherche à reproduire ce qu'il voit, c'est donc bien qu'il y cherche autre chose. Et en même temps, il y a ce deuil fait d'un dieu, de quelque chose qui dépasserait complètement l'humanité. Comment est-ce que cette quête-là se traduit dans sa peinture, Yann Blanc ?
Au fond, cette quête, qui est absolument centrale dans son travail, elle prend la forme d'une sorte d'antinomie entre deux notions auxquelles il tient également. La première, c'est la notion de représentation. Il considère, comme les peintres impressionnistes, dont il considère qu'ils sont ses principaux modèles, qu'il faut savoir représenter et traduire ce que l'on a devant les yeux. Donc il est très important de pouvoir sortir d'une forme d'idéalisation du monde et de pouvoir rester au plus près de ces manifestations visuelles. Mais il ne peut ni ne veut se contenter de cela. Il doit aussi s'intéresser à un autre aspect de son art qui est l'expression. Ce qu'il veut aussi, c'est traduire par l'image et par le visible des données invisibles. Et quelles sont ces données invisibles? Ce sont les personnalités des personnes qu'il représente, ce sont les atmosphères des lieux qu'il fréquente. Et c'est aussi et surtout le regard que lui-même, en tant que peintre, porte sur le monde. Et donc, cela, cette tension forte entre une volonté de réel, la notion de réalisme est pour lui très grande, c'est un grand lecteur de Zola et de Maupassant, et cette notion est très importante pour lui, mais on ne peut pas se contenter d'une sorte d'image un peu plate du monde, il faut lui donner cette densité que constitue cette vision subjective par laquelle il va non seulement représenter une nuit étoilée, mais également exprimer le regard qu'il porte sur cette nuit. Et donc, tout cela se faisant dans une forme de transcendance immanente. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas un au-delà. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle l'ici-bas, c'est-à-dire tout ce qui peut donner une densité à la vie matérielle et réelle. Cette notion de réalité est très importante pour lui, mais la réalité, pour lui, ça ne se réduit pas, au fond, à des images, à une surface des choses. Il y a vraiment une profondeur au sein même de la surface.
Qu'on trouve dans la représentation ou l'expression de la nuit étoilée, parce que c'est un thème qui revient souvent chez Van Gogh. On peut lire ces tableaux comme ça ?
Oui, oui. Et ce sont il y a deux tableaux, je le rappelle. Il y a un tableau, il y a une première version de la nuit étoilée, donc au-dessus du Rhône, qui se trouve à Orsay, et une deuxième, donc qui a été peinte en 1888, et une deuxième, un peu plus tard, en 1889, à Saint-Rémy-de-Provence, qui se trouve au MoMA. Ces deux tableaux ont très souvent été analysés dans le sens d'une lecture mystique. Et d'ailleurs, il y a une exposition actuellement sur le paysage mystique qui reprend cette idée. Mais si on lit les textes de Van Gogh, on est frappé de constater que ce qui l'intéresse, ça n'est pas du tout un au-delà qu'il faudrait représenter, des arrière-mondes pour parler comme Nietzsche, mais c'est vraiment le ciel dans sa surface, dans ses couleurs et dans sa matérialité.
Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu y feras attention, tu verras que certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. Et, sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffit point du tout de mettre des points blancs, noirs, ou sur du ciel, sur du noir bleu. Le ciel étoilé peint la nuit même sous un bec de gaz. Le ciel est bleu-vert, l'eau est bleu de roi, les terrains sont mauves, la ville est bleue et violette. Le gaz est jaune et ses reflets sont or roux et descendent jusqu'au bronze vert. Sur le champ bleu vert du ciel, la grande ours a un scintillement vert et rose, dont la pâleur discrète contraste avec l'or brutal du gaz. Deux figurines colorées d'amoureux à l'avant-plan.
Toujours la vue des étoiles me fait rêver aussi simplement que me donnent à rêver les points noirs, représentant sur la carte géographique ville et village. Pourquoi, me dis-je, les points lumineux du firmament nous seraient-elles moins accessibles que les points noirs sur la carte de France ? Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour aller dans une étoile. Ce qui est certainement vrai dans ce raisonnement, c'est que, étant en vie, nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile. Pas plus qu'étant mort, nous puissions prendre le train. Enfin, il ne me semble pas impossible que le choléra, la gravelle, la phtisie, le cancer soient des moyens de locomotion céleste, comme les bateaux à vapeur, les omnibus et le chemin de fer en soient de terrestres. Et oui, le trio Ignazi Teresa, trio a consacré aussi, a appelé une de ses musiques Van Gogh. Qui, d'ailleurs, c'est un peintre qui a énormément inspiré les musiciens, Yann Blanc. Oui, pour le coup, c'est assez agréable à la radio parce qu'on se rend compte du nombre de références que les musiciens font à Van Gogh. Quand on entend les lettres, là, les lettres que Van Gogh adresse souvent à son frère, d'ailleurs, Théo Van Gogh, en parlant de la nuit étoilée, ce qui frappe, c'est que les lettres elles-mêmes sont comme des tableaux. On sent le goût de trouver le bon mot et les images. Ouais. Véhiculés par chaque mot choisi qui sont extrêmement visuels et qui sont très picturales.
Oui, d'abord parce qu'il décrit à son frère qui est à Paris les tableaux qu'il est en train de peindre et donc il doit en quelque sorte procéder à une forme d'ekphrasis. Il doit pouvoir décrire non seulement la surface du tableau mais exprimer les effets que que le tableau doit ou peut pouvoir faire sur le spectateur. Mais l'autre aspect qui est intéressant chez lui, c'est d'arriver aussi à expliquer dans quel état et sous quelles conditions il conçoit son œuvre. Et concernant La Nuit étoilée de Saint-Rémy de Provence, donc celle de 1889, il précise, le 18 juin 1889, je cite, « Ce n'est pas un retour au romantique ou à des idées religieuses, non. » Il le dit très clairement. C'est-à-dire que ça n'est pas un paysage mystique. Malgré la présence du clocher de l'église au centre du village, selon lui, c'est vraiment une sorte de cartographie du ciel où il essaie de rendre compte simplement de la luminescence des étoiles par un travail sur la vibration de la touche, par ces cercles concentriques de touches autour des astres.
Il faut dire, pour ceux qui n'ont pas forcément le tableau sous les yeux, que La Nuit étoilée, les deux, mais surtout celle qui est peinte à Saint-Rémy-de-Provence en juin 89, représentent des tourbillons de lumière dans le ciel.
Exactement.
C'est certainement pas des petites touches que font les étoiles, ce sont des véritables tourbillons, des vagues dans le ciel.
Des vagues dans le ciel d'ailleurs qui sont traduites dans la composition de Dutilleux par ces effets de volutes chromatiques. Et ce qui l'intéresse vraiment ici, et on le voit dans le texte que vous avez cité, qui est un texte très complexe, hein, on a du mal à comprendre comment le choléra peut être un moyen de locomotion céleste, on pourra toujours y revenir, je crois qu'il y a quand même un sens précis derrière cela. Mais ce qui l'intéresse vraiment, il parle de la carte, il parle des points noirs sur une carte géographique, c'est vraiment les effets de surface. Il n'y a rien derrière la surface de la carte. Mais en revanche, la carte indique des lieux où on n'ira jamais. Hein, il précise bien, nous prenons la mort pour aller dans une étoile, mais nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile. Donc c'est un constat anti-mystique qui consiste à dire, je ne peux pas accéder à une transcendance pour autant qu'elle existe. Donc je me contenterai, moi, en tant qu'être vivant et en tant que peintre, réaliste et impressionniste, dit-il, de me consacrer à ce que je peux voir et à exprimer les sentiments que je ressens devant l'objet ou devant le motif. Et en l'occurrence, ici, ce sont ces sentiments d'infini qu'il tente de rendre compte dans ces deux nuits étoilées. C'est ce qui explique pourquoi le cadrage accorde une très grande importance au ciel, hein, qui occupe les trois quarts de la partie supérieure de la composition. On a le sentiment que le ciel lui-même est un paysage en soi, une carte en soi, dont les étoiles sont en quelque sorte les différentes étapes, les différentes villes d'un voyage imaginaire.
Et avec ce point orangé qui se situe en haut à droite du tableau, qui paraît être un soleil alors qu'on est en pleine nuit, c'est la lune qui est aussi lumineuse que le soleil.
Exactement, on retrouve ce thème du soleil et de la lune comme des astres brillants dans de nombreuses compositions. Là encore, on pourrait faire de ces astres des symboles de la présence de Dieu sur Terre, mais ce qui l'intéresse d'abord, c'est l'expression de la lumière. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont ces astres vont pouvoir lui permettre de rendre compte des différents phénomènes visibles, différents phénomènes de l'image, au fond. Donc il ne faut pas forcément analyser sous l'angle strictement religieux tous ces phénomènes physiques et toutes ces étoiles, ces astres ou ces soleils qu'on trouve dans de nombreuses œuvres de Van Gogh.
Vous avez dit que ce qui intéressait Van Gogh n'était pas simplement l'impression, pour reprendre l'expression qui a forgé celle d'impressionnisme, mais aussi l'expression. Comment est-ce que vous distinguez les deux ?
L'impression, c'est au fond l'effet que produit des objets extérieurs sur la personnalité et le regard de l'artiste. L'expression, c'est le contraire. C'est la façon dont il va restituer ses impressions à la surface de la toile, permettant ainsi au spectateur de partager une expérience. L'enjeu pour Van Gogh, c'est précisément d'arriver à entrer en communication avec le spectateur, même s'il n'a vendu aucun tableau de son vivant, enfin un tableau indirectement qui est La Vigne Rouge. Il a toujours cette idée selon laquelle un tableau doit parler au spectateur. Et d'ailleurs, il critique fortement les artistes qui, en son temps, produisent des œuvres trop cryptées. Par exemple, il est assez réticent vis-à-vis des formules symbolistes. Il n'aime guère le symbolisme. Donc, quand je parle d'expression, je ne parle pas d'expression signifiante. Je ne parle pas de symbole. Ce qui l'intéresse, ça n'est pas de faire de la nuit étoilée.
Il n'y a pas de message.
C'est pas une allégorie. C'est même le contraire de cela. Ce sont des expériences sensitives et sensuelles à travers lesquelles il va en quelque sorte partager la façon dont il voit le monde auprès d'un spectateur qu'il imagine et qui est d'ailleurs souvent son frère, hein, car c'est souvent son frère qu'il choisit comme spectateur idéal. Donc de ce point de vue, impression et expression sont les deux moments d'un même geste qui consiste à absorber toute une série d'expériences du monde pour pouvoir ensuite les restituer à la surface de la toile. Et ces expériences du monde, je précise encore, ce sont des expériences immanentes, empiriques. Elles n'ont pas pour fonction de restituer des expériences mystiques, spirituelles. Van Gogh, à de très nombreuses reprises, se moque justement de cette volonté d'accéder à un au-delà. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le monde ici-bas, le réel en tant que tel.
Vous dites que Van Gogh n'a jamais vendu un tableau de son vivant ?
Il y a la vigne rouge qui est peinte, qu'il fait vendre indirectement. C'est son frère qui parvient à la vendre à Anna Bock. Mais pour le reste, toutes les œuvres appartiendront après sa mort à son frère, ce qui est une chance pour les historiens de l'art, puisqu'ensuite, une grande partie de cette collection, donc Van Gogh, va aboutir au Van Gogh Museum à Amsterdam. Si bien qu'on a conservé quasiment la totalité de l'œuvre de Van Gogh. Alors, évidemment, c'est un peu dispersé au cours du temps, ce qui explique qu'on en trouve dans d'autres musées que le musée Van Gogh à Amsterdam. Mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir des informations très précises et de pouvoir dater un tableau parfois au jour près, parce qu'on a en plus toute la correspondance, puisqu'il a écrit essentiellement à Théo Van Gogh, son frère, qui lui aussi va garder sa correspondance. Donc effectivement, pour lui, c'est terrifiant de ne pas réussir à vendre un tableau. Le seul tableau qu'il a réussi à vendre, donc, c'est la vigne rouge, et il n'est pas content quand il le vend, parce qu'il trouve qu'il n'est pas vendu suffisamment cher, et il n'est pas très content de ce tableau. Donc même lorsqu'il a un certain succès, à la toute fin de sa vie, Albert Aurier va consacrer un article à Van Gogh, et il va répondre à Aurier en disant « mais vous n'avez rien compris, je me suis mal exprimé ». Enfin, même lorsqu'il réussit un peu, il considère qu'au fond, cette réussite n'est pas satisfaisante. Précisément parce qu'il a sans doute dans l'idée un rapport à ces tableaux qu'il ne parvient pas à restituer à travers soit la vente de ce tableau, soit la critique qui sera faite par Aurier. Aurier d'ailleurs est un personnage intéressant parce qu'il produit une lecture tout de suite mystique de l'œuvre de Van Gogh, et ça irrite profondément Van Gogh, qui considère qu'Aurier n'a pas compris son art. Ça n'est pas un art symboliste selon lui, et justement Aurier le classe parmi plutôt les artistes symboliques de son temps.
Tu t'emmerdes pas, toi ?
Tu vois cette voile rose dissonante à gauche qui déséquilibre tout ? Je l'enlève. C'est une grossière erreur. J'ai tout arrangé. C'est mieux. C'est mieux comme ça.
Moi j'aime la fluidité ! Les choses aérées, à la Turner. Moi, je transcende cette œuvre à ras de terre.
À ras de terre. Ces touches mécaniques. Elles sont trop grandes, tes toiles. Tes toiles sont trop grandes.
Trop grandes, hein. Alors, pourquoi tu as copié 5 fois mes toiles?
Pour moi, c'est l'extase, c'est la fluidité. Regarde! Regarde, regarde ce que tu fais, toi. Regarde, regarde ces épaisseurs. On ne reconnaît même pas l'eau des feuilles et du ciel. Tout est la même chose. Non, mais regarde ça. Il n'y a aucun glacis. Tu ne sais pas faire un glacis. Ce sont des épaisseurs, les unes à côté des autres. Des touches, des touches, des touches, des touches. Rien n'est aéré.
T'as fini ?
On ne sent rien dans ta peinture.
T'as fini ?
Regarde ton bonhomme.
T'as fini ?
Mon cher Théo, afin de te rassurer tout à fait sur mon compte, je t'écris ces quelques mots dans le cabinet de Monsieur l'interne Ray, que tu as vu toi-même. Je resterai encore quelques jours ici, à l'hôpital. Puis j'ose compter retourner à la maison très tranquillement. Maintenant, je te prie à toi une seule chose, de ne pas t'inquiéter, car cela me causerait une inquiétude de trop. À présent, causons de notre ami Gauguin. L'ai-je effrayé ? Enfin, pourquoi ne me donne-t-il pas un signe de vie ? Il doit être parti avec toi. Il avait d'ailleurs besoin de revoir Paris, et à Paris, peut-être, il se sentira plus chez lui qu'ici. Dis à Gauguin de m'écrire, et que je pense à lui, toujours.
Et oui, Van Gogh peint, Van Gogh discute avec ses contemporains, comme dans l'extrait du film de Maurice Pialat qu'on a entendu, Yann Blanc, avec Jacques Dutronc qui interprète Van Gogh, et ici le peintre sans doute imaginaire, interprété par Frédéric Bompard, hein, le peintre critique La Mouche. Il est présenté comme tel en tout cas, on l'entend discuter vraiment de manière très, très, très technique du geste même du peintre. Et puis, de manière assez simultanée, réalité, Van Gogh qui se confie à son frère sur ses problèmes de santé. C'est un axe très important dans la création même de Van Gogh, son rapport à la santé et à la maladie. Ce qui frappe dans ce texte que Georges Claes vient d'interpréter, c'est que Van Gogh est peut-être malade, mais en tout cas, il fait tout pour rassurer son frère. On a ici non pas le ton de quelqu'un qui est complètement fou, un démon, comme dirait Nietzsche, mais quelqu'un qui est lucide sur lui-même et qui insiste sur la bienveillance à l'égard de son frère plutôt que sur l'inquiétude.
Oui, c'est un aspect important de son travail, qui est extrêmement important dans la bibliographie et qui a suscité un nombre incalculable de commentaires. Ce que l'on peut constater, c'est que lorsque Van Gogh subit des crises mentales, il ne dessine pas, il ne peint pas. il ne dessine, il ne peint que lorsqu'il va mieux. Et d'autre part, il n'a jamais de souvenir de ce qui se passe. Il est dans un état d'inconscience et on lui explique ce qu'il a fait.
Donc il a des crises de folie, de ce qu'on pourrait appeler des crises de démence ou comment on appelle ça ?
On parle aujourd'hui d'épilepsie mentale, mais enfin en tout cas des moments où il perd conscience et réalise des actions comme se couper le lobe de l'oreille gauche ou manger de la peinture, avoir des actions incohérentes dont il ne se souvient pas. Ce qui produit pour lui, chez lui, plusieurs effets. Le premier effet, c'est un effet de dédoublement. Et il se sent au fond habité par un autre que lui qui va constituer au fond une sorte il va en quelque sorte proposer une sorte de diagnostic de sa maladie, et la raison qu'il va assigner à cette maladie, c'est précisément la foi. Il insiste énormément sur cela, et lorsqu'il sera interné à Saint-Rémy, qui est un ancien couvent, il va justement s'amuser en associant ses médecins, et ce qui est en fait des bonnes sœurs, à justement ces aberrations religieuses maladives dont je parlais tout à l'heure. Donc pour lui, il est clivé, parce qu'en lui, il y a une force qui a été construite par sa famille et son milieu social qui le pousse vers des idées de Dieu, et qu'en même temps, il y a l'autre. Donc face à Van Gogh, il y a Vincent, c'est d'ailleurs comme cela qu'il signe la plupart de ses tableaux, qui lui ne s'intéresse pas à Dieu, il voudrait presque l'extirper de sa vie et de son œuvre. Et donc il sent cette forme de clivage très fort, et donc pour lui peindre, c'est tenter de retrouver la santé. Gauguin explique dans un de ses témoignages que Van Gogh avait écrit sur le mur de son atelier ces deux phrases: le Saint-Esprit, le Saint d'Esprit. On a souvent analysé ces deux phrases en les associant, en considérant qu'on ne peut être saint d'esprit que si l'on croit au Saint-Esprit. Mais il me semble que chez Van Gogh, c'est plutôt deux phrases qui s'opposent. Au fond, on ne peut devenir saint d'esprit qu'en renonçant au Saint-Esprit, car selon lui, c'est précisément la foi qui est la responsable de cette maladie. Et donc, c'est dans la peinture et dans le dessin qu'il recouvre cette santé que le salut empêche. Et dans la lettre qui vient d'être interprétée, c'est une lettre qui accompagne, qui précède de quelques jours le début de la réalisation d'un de ces deux autoportraits à l'oreille bandée, qui sont des autoportraits dans lesquels il veut se représenter non pas souffrant, non pas dans la situation une situation pathétique, mais dans la situation de quelqu'un qui guérit. Dont l'oreille est en train de cicatriser.
Alors pour décrire les tableaux, encore une fois, on a le visage de Van Gogh avec une espèce de chapka touffu sur le front, un manteau vert. Dans l'un, il fume la pipe, dans l'autre pas. Mm-hmm. Et dans les deux cas, on voit ce bandeau blanc qui lui recouvre l'oreille. Vous avez dit qu'il s'était coupé le lobe de l'oreille gauche. Mm-hmm. Sur le tableau, c'est l'oreille droite qui est bandée. C'est parce qu'il ne se passe pas dans un miroir.
Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on sait en réalité que c'est plus que le lobe. C'est presque une plus grosse partie de l'oreille. On a découvert tout récemment une lettre du docteur Ray qui a dessiné l'oreille. En fait, il s'était coupé une grande partie de l'oreille. Il ne restait quasiment que le lobe, en réalité.
Et ce qui frappe dans ces deux autoportraits, c'est presque la quiétude qui émane de ce regard. C'est en effet pas du tout le portrait d'un homme malade qui veut crier sa maladie, au contraire.
Oui, il veut.
C'est un homme guérissant.
Voilà, c'est la notion qui est très forte aussi chez Nietzsche, de la grande santé, de la guérison. Il est important d'affirmer sa santé. Face au Van Gogh malade, au Van Gogh délirant, il veut affirmer par la peinture la force et la présence d'un Vincent en santé. Il suit, on le sait, très scrupuleusement les conseils qui lui sont donnés par le docteur Ray, notamment l'utilisation du camphre dans le bandage. Donc il représente très précisément, c'est-à-dire que ce tableau, c'est au fond la preuve qu'il fait bien ce qu'on lui demande. Donc, et en dehors de cela, dans notamment la version, l'autoportrait du Courtauld, on voit tout à l'arrière-plan tout un ensemble de signes qui garantissent qu'il retrouve la santé. L'estampe japonaise, qui rappelle qu'il adore cet art et que pour lui, c'est l'art justement de la santé, c'est l'art de la joie, c'est l'art du plaisir, juste derrière son visage, avec un sort de montage qui semble donner le sentiment que son visage est dans l'image. À droite de la composition, une porte ouverte, signe qu'il est en train de passer à nouveau du côté de la santé. Et à gauche, un chevalet prêt à être peint, c'est-à-dire il retrouve la santé et peut à nouveau travailler. Donc c'est une sorte de tableau performatif. Il montre que c'est bon, ça y est, c'est passé, la crise est terminée, il retrouve ses esprits. Cela dit, le second autoportrait est un tout petit peu plus ambigu. Certes, ce portrait qui se trouve dans une collection...
Autoportrait à l'oreille bandée et à la pipe.
Voilà, il fume la pipe, ce qui est le signe de la santé également, ce qui est le signe de la virilité à l'époque. Enfin, à l'époque, on considérait que c'était un plaisir qui faisait partie de la vie, disons. Qui est le signe d'un homme qui se donne à nouveau un plaisir. Toujours cette oreille bandée. Mais à l'arrière-plan, on a un fond plus ambigu qui est en fait une sorte de tableau monochrome avec une partie supérieure.
C'est comme un Rothko derrière, avec moitié rouge, moitié orange, très vif.
Et ce qui est très intéressant, c'est que la ligne, la coupure entre la partie orange et la partie rouge coïncide parfaitement avec le regard du peintre, donc son outil de travail, mais aussi l'oreille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il coupe le fond du tableau pour rappeler la coupure qu'il s'est faite sur l'oreille. Et les couleurs sang et orange rappellent évidemment les couleurs de l'écoulement sanguin très fort qu'il a subi. Donc dans ce tableau, il y a quand même une sorte d'allusion à la crise qu'il a subie. Mais encore une fois, le passage par le bandage, par la pipe, par le bonnet pour se protéger des rigueurs du froid, car à Arles, durant l'hiver, on est en janvier, hein, il fait très froid parfois, et en l'occurrence il faisait très froid, le manteau montre qu'il surmonte la coupure, qui n'est pas simplement une coupure physique, c'est aussi une coupure psychologique. Je parlais de clivage. Il surmonte cela par la peinture, en peignant et en se peignant.
Il s'est tué lui-même. En effet, dimanche soir, il est parti dans la campagne d'Auvers. Il a déposé son chevalet contre une meule et il est allé se tirer un coup de revolver derrière le château. Sous la violence du choc, la balle avait passé le cœur, il est tombé. Mais il s'est relevé. Et consécutivement, trois fois, pour rentrer à l'auberge où il habitait, Revoux, place de la mairie, sans rien dire à qui que ce soit de son mal. Enfin, lundi soir, il expirait en fumant sa pipe qu'il n'avait pas voulu quitter, et en expliquant que son suicide était absolument calculé et voulu en toute lucidité. Un fait assez caractéristique que l'on m'a rapporté touchant sa volonté de disparaître est « C'est à refaire alors ?» quand le docteur Gachet lui disait qu'il espérait encore le sauver. Mais ce n'était hélas plus possible.
Dans sa lettre du 1er août 1880, Émile Bernard décrit le suicide de Van Gogh et emploie cette expression. Il dit qu'il parle de sa volonté de disparaître. Yann Blanc, est-ce que cette volonté de disparaître, qui semble contredire tout ce qu'on vient de dire sur son tableau, sa volonté de se peindre en voie de guérison, finalement en bonne santé, peut-être pas la grande santé nietzschéenne, mais la bonne santé, n'est-elle pas paradoxale avec cette volonté de disparaître, de mettre fin à une existence qui, si elle le faisait souffrir, c'est ce qu'on a commencé l'émission comme ça, lui donnait quand même envie d'aller de chercher quelque chose qui lui permettait de rester en vie. Or là, c'est le signe d'un échec.
On peut faire cette analyse, même si là, on se trouve confronté à un problème qui est l'analyse psychologique. Et en tant qu'historien de l'art, moi, je ne me risque pas à faire le diagnostic psychanalytique d'un peintre mort il y a plus d'un siècle. Donc, c'est toujours difficile. Mais si on en reste au propos de Van Gogh lui-même, on pourrait aussi considérer que ce suicide, c'est l'aboutissement de son travail. Pourquoi ? Il faut en rester encore une fois au mot prêté à Van Gogh. Ce suicide est calculé. Il s'est tué lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il a pris en charge sa vie jusqu'au bout. Il ne s'est pas, au fond, laissé arracher sa responsabilité et a choisi, au fond, de mourir. Et c'est très intéressant de constater comment il choisit de mourir. Mmh. Il met en scène sa mort, puisqu'il il se tue dans un champ, ces espaces qui sont les thèmes auxquels il consacre les derniers tableaux de sa vie, les champs de blé, près de Vers-sur-Oise, avec son chevalet. Et il se tue d'une balle dans le cœur. Il y a toute une série de textes dans les années 1880 qui sont très intéressants parce qu'il explique qu'il veut peindre par le cœur et par cœur. Il explique l'importance de... Il a une expression « peindre par cœur la nature ». C'est-à-dire qu'il faut à la fois la représenter telle qu'on la voit, mais aussi la représenter par le cœur. Et on peut considérer, me semble-t-il, que ce suicide est une façon, d'une certaine manière, d'abréger ses souffrances, incontestablement, mais aussi de choisir lui-même de les abréger. Il n'y a pas de volonté de martyr. Dans une lettre de 1889, il explique à vrai te dire, dans aucun cas je ne désirerais une carrière de martyr. Donc ce n'est pas l'idée de la souffrance qui l'intéresse. C'est plutôt une façon de l'abréger et une façon de prendre en charge sa santé, c'est-à-dire son corps, et de considérer qu'à partir du moment où il ne veut plus être maître de lui-même et continue à subir ses crises mentales, qui au fond l'arrachent à sa propre volonté, ce suicide est une façon pour lui de se ressaisir une dernière fois hein, une ultime fois de ce geste et de cette vie dont il veut être à présent l'auteur plein, sans être au fond le jouet ou la victime ou des idées de Dieu ou des idées des grands maîtres au fond.
Il y a cette idée de répétition qui revient toujours hein, là aussi, sans forcément parler d'éternel retour, mais il y a quand même cette possibilité d'acquiescer à ce qui revient et qu'on ne peut pas empêcher. Mmh. Émile Bernard le dit dans la lettre qu'on a entendue, hein, en le citant, c'est à refaire alors, comme un éternel recommencement.
Oui, oui. Il y a l'idée du geste, d'artiste. Van Gogh, lorsqu'il commence à étudier de façon très précise la peinture hollandaise du XVIIe siècle en allant à Amsterdam au Rijksmuseum, il est frappé par la vivacité de la touche de Frans Hals, par exemple, qui est un peintre qu'il admire. Et il dit dans une de ses lettres, ce qui est fou, c'est que ces tableaux sont peints en un instant, et je veux faire la même chose. En fait, il n'y parviendra jamais. C'est un peintre qui ne fait que répéter le geste, refaire 4, 5, 6, 7, 8 versions parfois de la même œuvre. Il n'y a pas d'effet de sérialité. Hein. C'est plutôt il essaie de recommencer l'œuvre parce qu'il n'est pas convaincu par l'œuvre qu'il vient de réaliser. Et au fond, c'est quand même chez lui cette sorte d'idéal du geste artistique, du geste en une touche, en une phrase, si j'ose dire, permettant d'aboutir pleinement et spontanément à la vérité. Et peut-être que sur son lit de mort, s'adressant à Bernard, il y a encore ce regret de dire que même lorsque je tente de me suicider, je ne parviens pas à le faire d'un coup. Il faut que je souffre encore plusieurs heures. Il y a au fond une sorte d'analogie qui est faite, et elle est faite par Van Gogh lui-même, si l'on en croit Bernard, entre le geste du peintre qui touche la surface de sa toile et le geste de l'homme qui se tire une balle dans le cœur. Ces deux hommes ne parviennent pas à aboutir au geste premier, et c'est donc un travail incessant, douloureux, difficile, qu'il accepte en tant que tel et qui constitue selon lui la matière, la matrice de toute pratique artistique.
Je préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au tableau. Je voyais un naufrage derrière chaque bateau. Je préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs.
Un grand merci à vous, Yann Blanc, d'être venu nous parler de Van Gogh aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Merci d'être venu participer à cette dernière émission de La Grille. Et oui, en compagnie de Georges Clesse. Merci à vous, mon cher Georges. D'avoir prêté votre voix Van Gogh, ni Dieu, ni Maître. C'est le titre de votre ouvrage, Yann Blanc, aux éditions Citadel et Masno. Alors, c'est un livre... C'est l'inverse d'un livre de poche, parce qu'il ne tiendrait pas dans une poche, mais dans un sac.
Une grosse poche, très grosse.
Un sac à dos, disons, qui pèse très lourd et qui est absolument formidable. Vraiment, on y trouve, là, j'ouvre au hasard, les tournesols y jaillissent hors du livre. C'est absolument formidable de voir à quel point on peut regarder ces tableaux de si près, de si loin, et avec des textes de vous qui sont absolument éclairants et dont vous nous avez fait part aujourd'hui. Ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de lire. Alors n'hésitez pas, ne vous retenez pas surtout, chers auditeurs.
La tristesse durera toujours.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, sur la voix d'Alex Baupin, mon amour, c'est Van Gogh. En réalité, eh bien, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les vendredis chaque année, vous nous proposez votre petit précis philosophique à l'usage de personnalités politiques. Alors pour ce dernier vendredi de la grille, qu'avez-vous choisi?
Eh bien pour la dernière de ce précis, ce sera un conseil collectif aux élus, petits nouveaux, anciens expérimentés, usés ou perdants, aux électeurs convaincus, déçus, stratèges ou abstentionnistes, avec une question en forme de bilan, que faut-il donc retenir de cette année d'élection ou pas?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me présenter du tout.
Ces derniers jours, vous avez peut-être eu un sentiment étrange. C'est comme s'il manquait quelque chose, comme si vous étiez désœuvré, comme si pour une fois, depuis septembre, on ne vous sommait pas de suivre attentivement un feuilleton politique et de prendre parti. Oui, ces derniers jours étaient des jours sans campagne ni élection, sans sondage ni pronostic, seulement des jours normaux, et ça n'était que le début. Mais la fin des élections signifie-t-elle vraiment la fin de ce qui s'est passé avec ces élections? Puisque tout ne fait que commencer, que faut-il pour la suite plutôt retenir de cette année?
Mes chers compatriotes, Je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi.
Pour ce dernier précis, qui est donc une sorte de bilan sous forme de best-of, hein, de meilleurs moments, on peut d'abord commencer par la fin en tout cas des deux candidats qui avaient pourtant rythmé la campagne précédente de 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy, dont le renoncement du premier et l'élimination du second ont marqué cette campagne sous le signe du renouveau. Renouveau, auquel la chute de certains a d'ailleurs fortement contribué, et c'était bien un autre moment marquant de cette campagne.
Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée.
François Fillon et les affaires, bien sûr, auxquelles on peut aussi ajouter cet autre moment marquant.
La défaite de la gauche est incontournable. La déroute du Parti socialiste sans appel. La droite fait face à un véritable échec. Enfin, les populistes de tous bords sont relégués aux marges.
La défaite des partis traditionnels, bien sûr, comme l'explique Jean-Christophe Cambadélis. En somme, entre la déroute des uns et la résignation des autres, retenir les moments marquants de cette année prend plutôt des allures de ce que Nietzsche appelle la rumination. Et c'est vrai que si ces moments ont peut-être marqué ces élections, sont-ils pour autant inoubliables? Autrement dit, faut-il vraiment les retenir? Et si au contraire, la question n'était pas que faut-il retenir de cette année, mais plutôt que faut-il oublier?
C'est qui votre cochon préféré?
Mon cochon préféré? C'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse.
Et oui, quand on écoute Jean Lassalle parler de sa femme en rire, on peut se dire qu'on préfère oublier. On peut même se dire qu'oublier, ce n'est pas seulement une défaillance, une faiblesse que l'on subit, mais que ça peut être une chance. Que comme le dit encore Nietzsche, ça peut même être, je cite, un pouvoir actif. Une faculté d'enrayement dans le vrai sens du mot. De quoi faire de la place aux choses nouvelles et de quoi être capable, je cite encore, de s'asseoir au seuil de l'instant. Pour en accueillir un comme ça, par exemple.
Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche, et à côté de ça, donc, en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Voilà, vous avez une chance, le système vous protège, tant mieux pour vous.
Oublier pour être dans l'instant et non dans l'histoire, nous dit Nietzsche. Oublier pour agir et là, sûrement faire l'histoire. Oublier, on pourrait ajouter, pour savoir à l'inverse aussi, dédramatiser et un peu rigoler.
I have President Barack Obama for you. Hold on one second.
Thank you very much.
Hello.
Hello, Mr. President. How are you?
It's Emmanuel?
Yeah, exactly.
Well, I'm doing very well. How are you? Can you hear me?
Yes, I hear you very well.
The main message I have is to wish you all the best in the coming days.
I will do my best.
Okay, Géraldine, I will do my best too. So you have an advice for the candidates?
Eh bien non, aucun. Alors moi je le ferai en français, hein, je suis beaucoup moins bonne à l'anglais que vous, Adèle. Non, aucun conseil, les vacances, profitez, mais restez un petit peu vigilante. Je crois qu'il y a des choses qui vont se passer quand même pendant l'été.
Ah, vous croyez?
Ah oui, des lois, tout ça.
En tout cas, Géraldine, avec vous, on se dit que cette année qu'on vient de passer, bah, finalement, les 4 minutes ou les 5 minutes que vous venez de nous proposer suffisent. Hein, le merci pour ce best-of qui nous donne à entendre et à réentendre le meilleur de cette année.
Mais merci, merci à vous. Ça m'a fait... C'était bien de réentendre toutes ces voix, d'entendre Jean Lassalle notamment.
C'est une bonne idée
de vous, Adèle, d'ailleurs, il faut le dire.
Et merci à vous, Géraldine, ainsi qu'à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a accompagnée contre vents et marées, de jour comme de nuit, toute cette année. C'est grâce à leur dévouement que cette émission peut avoir lieu tous les jours, sachez-le, et que cette émission peut continuer à la rentrée. Alors merci à Marianne Chassor, à Livia Garrigue, à Nicolas Bouteloup, à Antoine Ravon, à vous évidemment Géraldine Mosna-Savoie, à Nicolas Berger et Olivier Bétard qui réalisent cette émission, à vous Georges Kless qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio aujourd'hui, qui prêtait bien souvent votre voix au texte de cette émission. Vous n'êtes pas le seul, Yvan Morane, Olivier Martineau, Vincent Schmitt aussi, viennent lire régulièrement pour cette émission et que l'occasion me soit donnée de saluer encore une fois Jean-Louis Jacopin qui nous a quittés cette année. On se retrouve alors à la rentrée pour une nouvelle saison, autant couleur, je l'espère, et c'est pour ça qu'on termine avec Van Gogh d'ailleurs. Toutes vos suggestions d'émissions, celles que vous aimeriez entendre, celles qui ne vous ont pas plu, celles qui vous plairaient peut-être d'entendre et de réentendre, eh bien, vous pouvez nous en faire part en nous écrivant sur le site des Chemins de la Philosophie, via Facebook, via Twitter, on est absolument joignable et disponible pour vous, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires. Cette émission ainsi que toutes celles de cette année, vous pouvez les réécouter en ligne très facilement, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de nous écouter et bah, tout l'été. Et on vous écoutera vous aussi, Géraldine Massin-Savoie, au mois d'août.
Et oui, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier, Adèle, pour toute cette année passée en votre compagnie. Et on est ravis de se retrouver à la rentrée.
On est ravis et donc on vous écoutera cet été. La grille d'été de France Culture, chers auditeurs, est à découvrir sur le site. Elle est formidable, vous entendrez beaucoup de nouvelles voix et de voix que vous connaissez déjà dans d'autres situations. Ce qui est une bonne raison d'écouter cette radio à elle seule. Lundi prochain, en lieu et place des Chemins de la Philosophie, vous aurez les Chemins de la Philosophie, une nouvelle écoute de la semaine que nous avions consacrée aux métamorphoses d'Ovide. Vous pourrez la réécouter où vous voulez, quand vous voulez, c'est le principe. Et puis à 11h sur France Culture, c'est dans quelques minutes, comme d'habitude, c'est Florian Delorme. Bonjour Florian.
Bonjour Adèle.
Pour votre dernière émission de Culture Monde, vous êtes bien là, vous avez...
Je suis là.
Voilà, dans une heure... Vous serez ailleurs.
Absolument.
Mais vous êtes en studio pour la prochaine heure. Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
On va parler de la Tchétchénie et puis on va parler pour cette dernière émission de la lutte contre Daesh.
Jusqu'au bout, Florian Delorme.
Je vous souhaite un bel été.
Un été magnifique.
Pareillement.
Reposez-vous et on se retrouve avec grand plaisir à la rentrée.
Même heure, même jour, même pomme.
Même plaisir.
Hein, c'est ça?
Ah, ça, c'est Patrick Bruel. Bon, chacun ses références.
Allez, bel été.
Merci à vous, Florian. Tout de suite sur France Culture à 10h52. Votre feuilleton quotidien, la vie moderne.